Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Nathalie Janson, bonjour.
Bonjour.
C'est bien de venir, parce qu'elle est sur Twitter, Nathalie, elle écoute l'émission, elle réagit, mais là, elle est là pour prendre la parole directement, professeur à Neoma Business School. Fergan Azihari, bonjour.
Bonjour.
Délégué général de l'Académie Libre des Sciences Humaines, et vous avez publié « Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée » aux éditions Les Presses de la Cité. Alors, j'ai pas d'actualité crypto-monnaie aujourd'hui. Comme je sais, vous êtes tous les deux des
sera pour la prochaine
des crypto-maniaques. Non, c'est vrai que le Bitcoin était passé sous les 19 000, mais enfin, il est remonté au-dessus.
Avec le reste de la bourse, il n'y avait pas d'actualité.
Et puis Henri de Menton, bonjour Pierre-Henri.
Bonjour.
Bienvenue, directeur de la rédaction de Challenge. Les bandits d'Internet à la une de Challenge, tous ciblés, se protéger. Et puis il y a tout un cahier sur les meilleurs placements et notamment un dossier spécial immobilier cette semaine. C'est pas la fin du quoi qu'il en coûte, Pierre-Henri de Menton.
Alors oui,
on a un peu resserré l'histoire, on laisse 15% d'hausse de facture d'énergie
voilà,
au ménage.
Voilà, mais... vous savez que Gabriel Attal, c'est un spécialiste des éléments de langage. Donc il y en avait un qui faisait fleurir la CDR. Semaine qui est le quoi qu'il en coûte est fini. Maintenant, c'est combien ça coûte? Eh bien, en fait, pas du tout. Quand on voit les grandes lignes du budget, eh bien, ça continue. Donc, une hausse des dépenses de l'État.
Et de 21 milliards.
De 21 milliards. On a eu un cadeau inespéré, c'est la surprise du chef, qui est donc l'indexation du barème. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est une mesure qui coûte quand même une demi-douzaine de milliards.
Et 6 milliards d'eux. Je rappelle juste pour les auditeurs, le barème de l'impôt sur le revenu peut être indexé ou pas indexé sur l'inflation. À partir du moment où il est indexé sur l'inflation, il augmente avec le même rythme que celui des prix, et ça évite à certaines personnes de passer dans la tranche du dessus, ou certaines personnes d'entrer dans l'impôt si cette indexation voilà, n'avait pas été décidée. 6 milliards d'euros de manque à gagner. Donc,
voilà, et puis ça continue à dévitaliser un impôt qui est important, hein, qui même s'il rapporte, il y en a d'autres qui rapportent plus, qui est l'impôt sur le revenu, hein, qui est une contribution de chaque ménage quand même au service que peut lui rendre l'État. Donc on dévitalise encore cet impôt. Côté économie, il y a à peu près rien. Donc il y a eu un impôt, donc une baisse d'impôt qui a été pour les entreprises qui a été tronçonnée en deux, donc ça c'est l'impôt sur les productions, mais ça on a beaucoup parlé, on le savait. Et sinon j'ai vraiment rien vu à part un petit gadget, mais qui va faire du bruit, qui est la fin des remboursements. Alors ça c'est plus sur la Sécu, mais du remboursement des téléconsultations. Donc, qui était quelque chose qui était prévu quand même, hein, mais vraiment, on est plus dans, on continue, c'est le bouclier, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est en gros l'état nounou, qui fait qu'effectivement l'inflation, je crois que Malte est en dessous de nous dans la zone euro, sinon on est les champions de l'inflation bien contrôlée, puisque c'est le contribuable qui paye.
Alors Gabriel Attal, c'est pas très clair, mais dans l'interview hier dans les colonnes du JDD, on se demande si quand même le crédit d'impôt recherche, il va pas se passer quelque chose.
Oui, alors ça
c'est régulièrement une niche fiscale qui est quand même
vieux
très
serpent de mer,
attaquée,
hein. Ouais. Il y a eu énormément de rapports là-dessus, ça pourrait être mis dans un package super profit, puisque on le sait, ce sont surtout les très grandes entreprises qui en bénéficient plus que les PME. Ouais. Effectivement, mais là, rien de neuf sous le soleil, ça fait des années et des années qu'il y a une réflexion autour de cette très grosse niche fiscale.
6 milliards. Hein. Ouais. Bon, alors évidemment, le crédit d'impôt recherche a été expertisé, les effets d'aubaine que cela peut permettre, et il y aurait moyen, avec quelques choix politiques très simples, d'en réduire certains. Vos réactions, Fergan Azihari, Nathalie Janson, par rapport à ce qu'on vient de dire, on a fait une photo globale de la situation. 5% de déficit en 2023, une charge de la dette qui va augmenter de 17 milliards d'euros. Bon, oui, on est français, on regarde ça avec les yeux de l'habitude.
Voilà,
c'est ça. Ça, oui. C'est ça. Oui,
voilà. Oui, je pense que là, on est vraiment dans un. Voilà, on sait qu'il ne va pas y avoir de réforme majeure. Encore une fois, c'est dommage puisque.
Retraite quand même.
Oui,
on va y revenir. Pas maintenant.
En dehors de ça, au niveau du budget, de savoir, comme on disait qu'il n'y avait pas de réduction de dépenses, il n'y a pas le début du commencement de ça. On aurait pu envisager toujours avec cette idée que c'est le dernier quinquennat d'avoir quelque chose de plus courageux ou en tout cas de différent, d'avoir un projet en fait vis-à-vis de l'allocation.
Un projet.
Oui,
ah,
un
j'aime
projet.
Bien, oui, parce que.
Au niveau de l'allocation des ressources de l'État, puisqu'on sait qu'on ne peut pas couvrir tous les lièvres à la fois, et c'est ce qu'on peut regretter quand on a envie de réformer l'État pour qu'il soit plus clair au niveau de ses missions. Donc effectivement, le fait qu'on continue de protéger avec les boucliers, mais que du coup on ne s'attaque pas à des problèmes qui, à mon sens, me semblent beaucoup plus profonds et importants pour l'avenir du pays, qui sont le problème de l'éducation nationale. Bon ben voilà, ça c'est une. Ouais. Je pense que c'est un rendez-vous manqué. Voilà, mais c'est vraiment repenser, bien évidemment, la façon dont l'État dépense l'argent.
Il y a un petit groupe de parlementaires qui cherchent 2-3 idées d'économie. Il y aura peut-être
on peut leur fournir.
La niche fiscale sur la production cinématographique. Enfin voilà, de ce genre de choses.
Mais là, on n'est pas dans le projet.
Mais vous avez raison. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de projet. Même quand on parle des retraites, il n'y a pas de projet global avec. Ferran Aziari, pas évident de passer.
Le projet, c'est le CARE. On protège. Oui, c'est ce que n'arrête pas de dire le président de la République. Et quand vous voyez le discours de la majorité, c'est autour de ça. C'est l'État protecteur. Donc, ça peut être un projet en soi.
Ce n'est même pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on diffère, encore une fois, sur les générations d'après. C'est-à-dire que c'est une protection qui est un jeu à somme nulle. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de gratuit qui tombe du ciel. Et la politique, le bouclier tarifaire associé d'incohérent, qu'il faut quand même rappeler le contexte dans lequel on est, qui est celui d'une tension sur l'approvisionnement en énergie, au point qu'on parle aujourd'hui de le rationner potentiellement cet hiver. Et donc, si vous voulez, la contradiction vient du fait que dans une économie de marché, quand une ressource devient rare, son prix normalement est censé augmenter pour précisément inviter les consommateurs à la modération, à la sobriété. C'est ça le rôle des prix finalement.
Je suis d'accord, quand vous avez des prix qui vont faire x5, x6, s'il ne se passe rien au niveau politique.
C'est-à-dire que si vous avez, encore une fois, vous cassez le thermomètre par une politique de bouclier tarifaire et que du coup vous ne dissuadez pas la consommation de cette ressource qui se raréfie, vous allez quoi qu'il arrive vers la pénurie et le rationnement. Donc moi je trouve assez contradictoire de nous expliquer que cet hiver il va falloir couper plein de choses, faire preuve de sobriété, donc on utilise le joli mot de sobriété pour ne pas parler de rationnement puisque c'est bien ce qui va se passer, tout en encourageant à T-1 une consommation débridée quand c'est précisément le rôle des mécanismes de marché d'inviter les entreprises et les ménages à la modération dès lors qu'une ressource se raréfie. Et en plus de cela, briser le signal prix, là encore, ça a aussi un effet pervers, puisque le renchérissement d'une ressource rare a aussi pour fonction d'inciter les producteurs à produire plus de cette ressource qui est demandée. Donc vous voyez, cette opportunité, entre guillemets, cette crise de l'énergie devrait être perçue comme une opportunité, entre guillemets, pour EDF et tous les gros producteurs d'énergie de moderniser
Je pense qu'elle l'est malgré tout.
De moderniser les infrastructures de modernisation de l'énergie. Et aujourd'hui, effectivement, on brise le thermomètre, mais on n'attaque pas le problème à la source, qui est que pendant des années, l'Europe va se trouver face à une situation de tension dans la production d'énergie.
J'insiste juste quand même sur le momentum, si vous voulez. Je ne considère pas qu'on brise complètement le thermomètre. On évite peut-être que ça passe de 37 à 48 d'un coup. Et on essaie de limiter le mercure à 39, 40. Vous voyez.
Vous allez donc rationner l'énergie cet hiver, faute d'avoir...
Pas à peine de se rationner sur les chaudières à fioul qui vont bientôt être interdites, parce que le pétrole est en train de plonger et il y a un bouclier toujours en cours dessus. Hein, donc,
il n'est pas renouvelé en janvier.
Voilà, oui, mais là pour l'instant...
sur le chauffage au fioul, s'il y a des mesures sur le chauffage au fioul. Nathalie Janson.
Je voulais juste rebondir en plus sur ce qui a été dit par Fergan. En fait, il y a aussi le fait que comme les consommateurs, en effet, ils n'ont pas cet effet prix, ils ne vont, si jamais les producteurs envisagent d'autres moyens pour des nouvelles sources ou des nouveaux moyens, puisque le prix augmente, ils ne vont pas rencontrer leurs consommateurs. Ouais. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est que non seulement les consommateurs, vous ne les incitez pas, mais en plus, ceux qui pourraient éventuellement trouver des solutions parce que le prix est élevé, donc avec avec d'autres choses. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas quelles sont les solutions possibles. Mais eux ne peuvent pas le faire puisque l'offre, elle vient de effectivement de la. On répond à des consommations potentielles. Or là, ils se détournent pas des sources d'énergie habituelles. En fait, c'est une espèce de cercle vicieux.
La question, voilà. À mon avis, si on est très pragmatique, la question, c'est de savoir le bouclier 2023 à quel niveau on met le curseur du signal prix. On en laisse un peu du signal prix. Mais
je sais plus, c'est entre 5 et
15%. 15% de la hausse de facture d'énergie restera à la charge des ménages. Bon, se pose un problème dans les copropriétés. Parce que visiblement, il y a des copropriétés où les syndics envoient des devis sur les prix 2023 qui ne semblent pas du tout avoir intégré le bouclier. Donc, y a-t-il des syndics qui vont profiter du bouclier tout en imposant des hausses de prix de malades mentaux? On a fait le tour.
Après.
Moi, juste peut-être un petit lien. On va peut-être parler de l'évolution des taux d'intérêt. Je fais la bille transition. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est la chance qu'on a, parce qu'on arrive avec ce budget, qui est pas très brillant. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais après un budget de fou qui a été présenté en fin de semaine dernière à Londres. Donc, si vous voulez, on est un peu épargné.
On est battu par les Anglais.
Voilà, on est un peu épargné et on a les élections italiennes aussi qui ont provoqué une tension. Les taux italiens, 10 ans, ils sont à 4,10. Et nous, on a toujours ce truc de les Anglo-Saxons appellent ça free rider, c'est le passager clandestin de l'euro.
Mais une chance.
Mais les marchés sont habitués aux Français.
On a une source de bouclier aussi de vis-à-vis des marchés avec une tolérance.
Ah, y a pas que les marchés.
Et pourvu que ça dure.
La charge de dette augmente. Parce qu'une partie est indexée sur l'inflation.
Alors ça, c'est dommage effectivement que des grands esprits aient eu l'idée quand les taux étaient négatifs de dire on va indexer, ils vont rester négatifs à vie. On a une super idée et on va l'indexer sur l'inflation parce que c'est quelque chose qui n'existait pas en France. Hein. C'est une invention de l'Agence France Trésor.
Une obligation sur 10. Une obligation sur 10,
c'est pays qui sont
les Anglais, ont l'habitude.
Les Anglais, les Polonais, par exemple, sont très, très indexés.
Je me mets à la place des grands investisseurs institutionnels qui, vous le savez, en plus, obéissent à des règles qui leur imposent de détenir une certaine nombre de quantités prudentielles. Ils voient le budget français, ils disent c'est français, c'est classique, ils lèvent bien l'impôt. Alors qu'ils voient le choc politique en Italie ou le virage économique en Grande-Bretagne. Là, il y a une nouveauté.
Concordance là qui fait que
la cohérence cognitive.
Voilà. Mais je pense pas qu'il faille se réjouir des facilités de l'endettement de l'État français.
J'essaye de pas pleurer tous les matins, Fergan.
mais je pense qu'il faut le déplorer. Si, il faut pleurer tous les matins parce que encore une fois, c'est un pouce au crime qui empêche aujourd'hui les États de se réformer, de prendre conscience que la situation financière n'est pas tenable. Alors effectivement, c'est-à-dire que vous avez raison, sur le long terme, ça peut durer. Mais la question, c'est à quel prix. Est-ce que le prix qu'on va payer, ce n'est pas le fait d'entrer dans une espèce de syndrome argentin, dans lequel, parce que justement...
Ça fait défaut l'Argentine cette année encore.
Ce que je veux dire, c'est que vous savez très bien que lorsque vous avez des finances publiques, effectivement, qui ne sont pas assainies parce que les États ne sont pas incités à se réformer, eh bien, vous vous retrouvez avec un État complètement improductif qui paralyse l'économie. Et donc, le prix à payer, en fait, il est diffus dans l'espace et dans le temps. C'est une croissance économique plus faible que celle qui aurait émergé dans un contexte financier beaucoup plus sain. Donc, vous avez raison, effectivement, de dire que sur le court terme, on ne le voit pas. Et puis, sur le long terme, comme disait Keynes, on est tous morts. Le risque, c'est que dans 10, 20, 30 ans, on se réveille, on regarde dans le rétroviseur et on se rend compte qu'en 30 ans, on a fait 3 mètres quand d'autres pays ont eu le temps de faire le tour du monde 3 fois parce qu'on n'aura pas assaini notre économie en bénéficiant de facilités de paiement. C'est le même problème qu'avec les entreprises zombies, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des tas d'entreprises qui bénéficient de facilités de paiement, de taux d'intérêt faibles, et donc qui sont artificiellement maintenues en vie là ou dans un environnement économique normal.
On commence les remboursements de PGE.
Mais vous voyez, donc il y a attention à ne pas entretenir cette illusion de prospérité au motif que certaines organisations, par des distorsions réglementaires l'ingénierie fiscale arrive à s'endetter facilement quand, dans un monde normal, cet endettement ne serait pas aussi facile que ça. Parce qu'encore une fois, le taux d'intérêt, il a quand même une fonction, c'est d'arbitrer entre des projets rentables, entre le présent et le futur. Et donc, cette situation n'est pas normale.
Oui, c'est pas normal, mais je vous dirais non, la France n'est pas en faillite. Non, la France
n'est pas en faillite. Mais
non, la France n'est pas au bord du
défaut. Elle n'est pas en faillite. Elle n'est pas.
Et pourtant, je suis pas un défenseur de la dette publique et de la dépense.
Mais Nicolas, quand vous regardez le taux de croissance de la France ces 20 dernières années,
évidemment,
quand vous comparez ça aux États-Unis et à la Suisse, on est en train d'écrire le scénario argentin dans la mesure, encore une fois, l'Argentine, c'est quoi? C'est pas l'histoire d'un défaut en premier lieu. C'est l'histoire d'un pays qui, au début du XXe siècle, figurait parmi les nations les plus prospères du monde et qui a fini par sortir de l'histoire à mesure que des politiques démagogiques rendaient sa croissance atone. Et donc c'est ça ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est pas le défaut de paiement que je redoute, c'est justement l'atonie de l'économie française sur des décennies de stagnation.
Vous me rappelez cette phrase extraordinaire de Raymond Barre à la une du Figaro Économie en 2004. Il disait « Non, la France n'est pas en déclin, elle s'accommode de la médiocrité ». C'est terrifiant cette phrase, terrifiant. Oui, oui, oui. Et je vous rappelle qu'en 99, on est devant l'Allemagne. Et maintenant, les choses vont bien changer. Les retraites. Alors, Elisabeth Borne a botté en touche, parce qu'on ne va quand même pas me dire qu'ils n'ont aucune idée de comment vont-ils faire. En tout cas, face à Pauline de Malherbe ce matin, elle dit « Nous annoncerons la décision de réformer les retraites et de comment nous allons réformer ces retraites à la fin de la semaine. Donc c'est là où nous saurons s'il y aura en fait une loi au début 2023 spécialement dédiée aux retraites ou alors un amendement dans la loi de finances de la Sécu qui, on le sait quasi de manière certaine, se terminera par le 49.3, idem d'ailleurs pour le budget de l'État. Est-ce que nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il faut travailler collectivement davantage?
Non.
Comment ça, non?
Non, non. Je pense que le débat ne peut pas se... Enfin, réduire le débat à une...
Mais c'est le cœur, c'est le cœur du sujet.
Oui, mais aujourd'hui, parce que le débat est posé ainsi. Mais moi, je regrette que le mot capitalisation ne soit pas davantage employé. Je regrette que le mot fonds de pension ne soit pas davantage employé dans le débat public français pour sortir justement de ce dilemme à chaque fois débile qu'on nous impose sur les paramètres sur lesquels il faudrait jouer pour avoir un système de retraite tenable, comme si la répartition était le seul horizon possible du système de retraite français. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous devrions tous nous accorder, la gauche comme la droite, à introduire une capitalisation toujours plus forte. Et la gauche en premier lieu, puisque je rappelle encore une fois que la gauche, c'est cette famille politique qui nous explique depuis deux siècles que les actionnaires se gavent, que les dividendes sont trop généreux, que le rendement du capital est trop élevé. Quand on lit Piketty, il nous explique, il a acquis la célébrité mondiale en nous expliquant que le rendement du capital en France, en Europe, en Occident était outrancier. Si ces gens étaient cohérents avec eux-mêmes, ils seraient les premiers à militer dans la rue avec de grandes banderoles rouges en faveur de la capitalisation.
Oui, mais en fait, selon eux...
Une réforme de gauche.
Hein, exactement. Voilà, mais selon eux, en fait, ils disent toujours que le système de capitalisation, effectivement, est taux de rendement élevé, mais en fait, quand on va à la retraite, on est toujours dans le bas du marché. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Nathalie?
Fait, ils disent, oui, mais le jour où il y a des gens qui prennent leur retraite, quand le marché se retourne, eh ben, ils n'ont plus de retraite. Donc, c'est bizarre, parce qu'en fait, ils se gavent, les actionnaires se gavent tout le temps, mais quand on part à la retraite, on part tout le temps avec un retournement de la bourse.
En théorie, des gestionnaires de fonds de pension adaptent la prise de risque à l'âge des individus.
On n'arrête pas de leur reprocher d'être cubide, d'être faire des profits mirobolants.
Normalement, ça ne devrait pas être comme ça.
Il y a Louis qui m'écrit, vous devriez inviter Fergan Azeri plus souvent. On a besoin de voix libérale, lucide et pragmatique. Il vient assez souvent, Fergan. Vous savez qu'à l'occasion de Covid, je m'étais rendu compte qu'il y a à peu près presque une centaine de voix qui s'expriment dans cette émission. Il n'y a pas beaucoup d'émissions de débat d'actu où il y a autant de gens différents qui viennent. On a 55 secondes.
La question, c'est l'utilisation du klaxon. Est-ce qu'il faut, quand on réforme, klaxonner ou pas? On parlait de capitalisation d'autres systèmes, fonds de pension. Il y a une réforme des retraites où on n'a pas klaxonné. C'est celle qui a été faite dans la loi Pacte avec la création des plans d'épargne retraite.
Oui, oui. Tout à fait.
Il n'y a pas eu 1 million de personnes dans la rue.
Non.
Et parce qu'on a pas utilisé les mots.
Le problème sur l'âge légal, c'est qu'on en a fait un totem. Et donc, on ne peut plus approcher de ça sans que ça irradie partout. La CFDT est complètement braquée. Donc, à la question de savoir est-ce qu'il faut de la concertation, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, si on en fait, ça sera bloqué de toute façon. Donc, on achète du temps. Madame Borne, elle était chez Bayrou il y a 2 jours, qui réclamait 3 semaines. Elle lui donne 1 semaine. Donc, c'est une espèce de jeu politique, mais moi je
pense que. Il a même dit 3 mois, il a dit qu'il n'y avait pas le feu au lac.
Voilà, non mais il a dit 3 mois pour la mise en application, ce qui laisse effectivement un agenda là encore d'un mois, 3 semaines, un mois. Je pense que ça sera le cas quand même, mais voilà, de toute façon, ça se fera.
J'aime bien l'image du klaxon. C'est toute la question de savoir si on klaxonne ou si on klaxonne. Généralement, on klaxonne peu. Quand on désindexe des pensions sans que ça bien se voit sûr. Trop. Qui se souvenait de la réforme Touraine 2014 entrée en vigueur en 2020?
Voilà. 6 ans après, ça fait.
Non, mais il faut réformer sans que ça se voit. Il faut payer pour réformer, ça c'est sûr, mais réformer sans que ça se voit. Et c'est pareil, c'est la France. Bon, c'est pas... On marque une pause. On pourra dire un mot des retraites. On va parler de l'Italie, bien sûr. Et puis, quand même, je trouve que le début de semaine, là, sur l'échange, sur les matières premières, sur le pétrole, il y a comme une ambiance un peu inattendue.